così.
Moi, ils observaient déjà ça, bien avant.
Pourquoi raconte-t-on les choses comme ça? Pour vous montrer que tout était déjà en germe au départ. Il a commencé à parler à 18 mois. Oui, mais sa capacité de parler existait déjà de sa mère, hein, attention. Vous voyez? Pour dire, attention, il a commencé à ce moment-là, mais ça vient de plus loin. Tout ça, il l'emploie. Et oui, il a même le défaut de son père, quand il parle. Vous voyez, ça vient de loin. Mais c'est exactement le même phénomène. Et alors, le Priester Codex a tout relu pour que les fêtes juives de l'époque d'après l'exil, bien entendu, l'époque d'Agger, 500-520, hein, 520-500, hein, pour que tout ça colle bien avec le texte. C'est une relecture. Et vous voyez, ce livre est un document historique de toute manière. L'histoire, c'est pas seulement ça. L'histoire, c'est tout cela. Et ce livre va vous raconter cette histoire des histoires de l'histoire qu'il va appeler « Histoire de salut ». C'est une histoire bien particulière. C'est le regard de Dieu sur l'histoire. Donc, n'allez pas chercher à retrouver des chronologies. Ça, c'est des histoires d'hommes. Vous pouvez regarder des calendriers, mais vous saurez que ces calendriers viennent d'ici. Ils viennent du Priester Codex. Et donc, tout ça, alors, ces trois théories, bon, sont-elles, laquelle est la meilleure, je n'en sais rien. Celle qui a eu le plus longtemps, hein, qui a été le plus longtemps en vie, c'est la théorie des documents. Maintenant, on parle davantage de théorie de tradition. On dit, est-ce qu'il y avait vraiment des documents écrits? Ou bien est-ce que ce sont des traditions qui ont conflué? On parle plutôt maintenant de tradition, plutôt que de documents. Alors, nous arrivons au lecteur. Et nous, le lecteur. Ah, qu'est-ce qui se passe quand je lis la Bible, quand le lecteur lit la Bible? Qu'est-ce qui se passe? Un événement. Un événement. Venir en contact avec quelqu'un, c'est un événement, c'est un fait. Si vous le faites tous les jours, c'est un fait. Si vous êtes tout d'un coup invité à faire attention à un mot, alors ça devient un événement. Le lecteur, est-il tout à fait en dehors du livre? Comme je vous le disais tout à l'heure, non. Le lecteur porte en lui déjà toutes les lectures précédentes qu'il a faites, toutes les lectures que d'autres ont faites et lui ont imprimées. Donc le lecteur est toujours un relecteur. Je relis la Bible. Je l'ai lu, j'ai lu un texte déjà un certain nombre de fois. Prenez l'histoire de Zachée qu'on commente depuis qu'on a 4-5 ans maintenant. Hein, l'histoire de Zachée. Mais chaque fois que je relis l'histoire de Zachée, je découvre des quantités de choses. Pourquoi? D'abord parce que je suis autre. D'abord parce que j'ai déjà lu plusieurs fois le texte. Parce que ma vie, ou mes occupations, ou mon étude, me permettent d'attacher plus d'importance à tel mot qui ne m'avait jamais frappé auparavant. Donc le lecteur vient au livre avec toute son histoire. Et l'histoire de l'un n'est pas celle de l'autre. Et donc c'est de nouveau un événement. C'est un fait qui devient événement quand ce texte me dit quelque chose. Et je ne peux pas relire le texte autrement qu'avec mon histoire. Et donc, je projette sur le livre, c'est-à-dire sur l'histoire des histoires de l'histoire, je projette toujours mon histoire. Et je ne peux pas séparer. Mon histoire fait partie de l'histoire de celui qui lit l'histoire. Et donc, vous voyez, c'est un phénomène complexe, lire la Bible. C'est pas seulement, il y a un truc là devant moi, et puis je vais savoir ce que ça veut dire. Et je vais aller trouver un bon commentaire qui va me dire, lui, de façon sûre et évidente, ce que ça veut dire. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un commentaire qui a dit le dernier mot. Heureusement, d'ailleurs. Il m'attend. Il m'attend pour que je dise mon histoire. Le livre est en train de m'attendre. Et il y a donc, entre celui qui a écrit, ou le rédacteur définitif, et moi, il y a une connivence, il y a une histoire qui se noue. C'est l'histoire que le texte vit en moi. Comment est-ce que je vis cette histoire? Ça, c'est la vraie vie. C'est le livre a été écrit pour ça. Il n'a pas été écrit d'abord pour m'informer sur ce qui était M. Abraham, ou Mme Sarah, ou leurs deux fistons. Il n'a pas écrit pour me dire ça. Il m'a écrit pour savoir comment moi, Sarah, ou moi, Agar, ou moi, Abraham, je vis cette histoire. Et ce qu'elle me dit, et ce qu'elle suscite en moi, et en nous, à travers tout ce que les autres qui ont lu et qui ont écrit sur ce qu'ils ont lu, les commentateurs, ont essayé déjà de faire sortir de cette histoire. Un enfant, il n'y a pas besoin de lui expliquer. Vous commencez l'histoire, l'enfant est déjà entré dans cette histoire. C'est déjà la sienne. En même temps que vous parlez, il lit son histoire. Il ne fait pas de problème, l'enfant. Nous, grandes personnes, qui prenons distance par rapport à l'histoire, nous avons beaucoup de mal à entrer dedans. Mais il faut avoir ça en vue. Donc, ne demandons plus ce qui est vraiment, ce qui s'est vraiment passé ou ce qui est vraiment historique. Tout est historique, mais à son niveau. Il y en a qui ont nié absolument l'existence d'Abraham, disant c'est une pure légende inventée de toutes pièces. Il y en a d'autres qui disent mais non, hein, les noms propres, les aussi bien de lieux que de personnages, on ne les a pas inventés comme ça de toutes pièces, surtout si on ne trouve pas dans les mentalités avoisinantes des noms semblables. Entre les deux, nous nous situons. Mais l'histoire du texte et du lecteur, ça c'est essentiel. Ça c'est un événement. Et il faut le vivre. C'est une rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je lis l'histoire et pourquoi l'auteur a-t-il écrit l'histoire de cette manière-là? Il y a des incohérences dans le texte. On dit, bon, c'était des gens qui travaillaient avec des ciseaux et le pot de colle, ils ont raconté deux fois la même chose avec des variantes. Vous pensez qu'ils étaient si idiots qu'ils n'ont pas perçu qu'il y avait cela? Il y a des doublés, il y a des répétitions. Oh, il y a quelques variantes, mais c'est la même chose. Pensez qu'il n'était pas capable de voir une différence entre deux mots, surtout à l'époque, hein, où on a écrit vraiment, c'est-à-dire au 5e siècle. Pensez qu'il n'avait pas réfléchi. Donc ce qui est vraiment essentiel, c'est pourquoi on écrit les choses comme cela. Il y a des détails qu'on nous dit, et nous nous demandons qu'est-ce qu'il vient de faire. Il y a des détails que nous voudrions bien savoir et on ne nous le dit pas. Pourquoi tout ça? Je vous disais tout à l'heure que la Bible est un exemple, elle n'est pas exemplaire. Il y a des choses extrêmement choquantes, notamment dans la Genèse. Et il ne faut pas vouloir tout édulcorer, c'est choquant. Et peut-être que c'est écrit pour nous choquer. Il y a des choses qui sont vraiment écrites pour choquer, et pour nous montrer que ces gens n'étaient pas plus exemplaires que nous, on prend le tout venant. Et pour nous dire justement ce qui arrive hein, quand nous laissons en nous monter ce qui n'est pas bon. Comme par exemple l'histoire de Caïn. C'est pas un exemple au sens même chose qu'il faut imiter. L'histoire de Caïn. Mais ça existe. C'est un exemple. Alors, il y a des choses que nous ne comprenons pas pour d'autres raisons. Parce que nous ne comprenons plus les mœurs de l'époque. Toutes sortes de choses étranges, hein. Un papa qui s'unit à ses deux filles, hein. Rappelons ça de l'inceste, nous, hein. Il y a comme ça un certain nombre d'affaires du même genre dans la Bible. Il y a des violences inouïes. Dont on a l'impression, d'après le texte, qu'ils sont commandités par Dieu. On va quand même réfléchir. Vous voyez, quand la Bible n'est plus bonne nouvelle, quand elle est vraiment choquante, c'est qu'il y a quelque chose que nous ne percevons pas. Il ne faut pas d'abord dire « elle a tort » ou bien « c'est idiot, ça n'a pas de sens ». Il faut dire « tiens, qu'est-ce que je ne comprends pas dans ce texte? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ?» Donc, il y a des raisons diverses. Il y a des mœurs que je ne connais plus et qui n'ont plus tout leur sens. Tout ce qui a trait, par exemple, au mariage, tout ce qui a trait à l'adoption, tout ce qui a trait au rapport entre hommes et femmes, tout ce qui a trait au rapport entre maître et esclave, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et il ne faut pas faire comme si on savait tout. Et puis, il y a des choses qui nous posent véritablement question. Le chapitre 11 de la Genèse se terminait donc, après la tour de Babel, se terminait par un passage que j'ai lu l'année passée, et qui est un passage résumé, et qui nous raconte les choses comme le sacerdote a assez le faire, il est bien génération, engendrement. Engendrement, génération de génération de génération. Ce qui montre justement la continuité de la vie. Voici la descendance de Terach. D'où il sort ce monsieur? Ah. Quand Nahor eut 29 ans, il engendra Terach. Après la naissance de Terach, Nahor vécut 119 ans, il engendra des fils et des filles. Quand Terach eut 70 ans, il engendra Abram, Nahor et Haran. Or, il se fait que Nahor et Haran sont des noms de lieux. Peut-être aussi, hein, on ne doute pas. Encore que le nom Avram, le grand cheikh, le père élevé. Voici la descendance de Terach. Ah, donc c'est ça qui intéresse. Descendre. Terach engendra Abraham, Nahor et Haran. Il l'a déjà dit. Haran engendra Lot. Ah. Haran engendra Lot. Donc, Lot est le neveu d'Abraham. Haran mourut en présence de son père Terach, dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Donc, on est là dans le Golfe, hein? En Irak, tout à fait où? Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent, la femme d'Abraham s'appelait Saraï, ma princesse, la femme de Nahor s'appelait Milka, la reine, fille de Haran, la femme de Nahor s'appelait Milka, fille de Haran, curieux, hein, bizarre. Ces relations qui ne sont pas très claires, hein, qui était le père de Milka et de Yisra. Fille de Haran, qui était le père de Milka et de Yisra. Deux filles. Et puis il revient. Or, Saraï était stérile. Tant que ça s'arrête. La génération s'arrête. Ça, c'est un événement. Que ça continue, on y est habitué, il y a eu tellement de générations jusque maintenant, et maintenant ça s'arrête. Or, Saraï était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et on en remet, hein. Elle était stérile, ça suffit, non? Elle n'avait pas d'enfant. Donc ça nous dit quelque chose d'important. Le manque d'enfant. Le désir d'enfant, comme on dit aujourd'hui. Terach prit, prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, il y revient, et Sabru Saraï,
femme d'Abraham. Et donc les relations sont bien marquées plusieurs fois. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. C'est tout le trajet de la civilisation. Vous voyez, Abraham ici est porteur de toute la civilisation. Il symbolise la civilisation qui part d'Ur des Chaldéens, qui s'en va jusqu'à Haran, c'est-à-dire hein, aux sources de l'Euphrate, je dis bien. Et puis il va redescendre au pays de Canaan, c'est-à-dire au territoire, dans le territoire actuel d'Israël. Mais arrivé à Haran, il s'y établit. Voilà, on fait une pause. La civilisation va faire une pause hein, vers les sources de l'Euphrate. On est venu du Golfe, on monte l'Euphrate, et en fait, c'est le chemin des transhumances. Quand on a besoin de pâturage, on remonte l'Euphrate. C'est comme ça que la civilisation en fait. Vous voyez qu'Abraham était déjà plus qu'un monsieur. Hein. Il est toute la civilisation qui monte le long de l'Euphrate, qui vient s'établir à Haran. La durée de la vie de Terah fut de 205 ans, puis il mourut à Haran. Donc il reste là, lui. Ça ne continue pas plus loin. Mais il se fait que la civilisation a été plus loin. On en voit des traces au Liban, on en voit des traces en Syrie, on voit des traces en Israël. Là, c'est l'archéologie qui le met. Donc on vous raconte l'histoire d'une certaine manière. Et maintenant, à partir du chapitre 12, on va vous raconter la même histoire d'une autre manière. Et donc il va falloir être très attentif. Comment il raconte l'histoire maintenant? On a raconté les générations, c'est leur manière de traduire la chronologie. Maintenant, on va faire des récits. Comme je vous disais, un récit, c'est pas pour nous informer, c'est pour commencer un rapport, une conversation avec nous. Le Seigneur, tiens, il dit ce terme de Yahvé. Il l'a déjà utilisé dans le récit de la Genèse. C'est curieux. Parce que justement, un peu plus loin, ça vous ne pouvez pas encore le savoir, mais justement plus loin, on va vous dire que c'est pour la première fois qu'on va révérer, honorer, adorer Yahvé. Nous avons besoin de la récit. D'accord. Merci. À l'Eucharistie.
Genre, une petite remarque. Ah. Nous devons être prudents. J'ai constaté qu'on avait laissé les fenêtres ouvertes pendant qu'on était au réfectoire.
Ah oui.
Or, la distance entre la fenêtre et le sol de l'autre côté est minime pour un bandit. Je vois que monsieur l'inspecteur principal des machineries digne de sa fonction et d'autres 36 machineries, c'est très vite volé. Hein. Donc on aère quand on est sur la cour ou dans les environs, mais je crois qu'on a déjà été imprudent ce midi. On parle d'expérience.
C'est exact. Oui.
Je ne le dis pas pour moi, je n'ai pas de machinerie avec moi.
C'est vous qui
serez. Ah, tout le monde est capable.
Bon, je reprends seulement le texte que vous avez dans votre Bible, mais il faut bien pour vous montrer que ce texte est déjà tout un programme. C'est quelques versets du début du chapitre 12 qu'on n'aura jamais fini d'épuiser, sont vraiment une réalité qui nous porte. Le Seigneur dit à Abraham. Où est-il? Comment parle-t-il le Seigneur? Comment savons-nous? Pourquoi il nous dit ça, le gars? Rien que cette première phrase nous pose une quantité de questions. Ça veut dire quoi? Dire le Seigneur dit à Abraham. Ça veut dire ce que ça vous dit quand le Seigneur vous dit quelque chose. Ah, comment le savez-vous? Et que voulez-vous? Quand on rencontre quelqu'un, ben, Il parle, il s'approche, il s'éloigne, il donne, il reprend. Il y a tout un commerce. Et puisque Dieu apparaît comme une personne, il faut bien dire la même chose, hein. Faut utiliser les mêmes réalités. Quand nous rencontrons une personne, quand la personne nous rencontre, elle parle. Mais Dieu n'utilise pas, il n'a pas de bouche Dieu. Il n'a pas de devant, il n'a pas d'arrière, il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite, il n'a pas de haut, il n'a pas de bas. Nous avons tout ça. Mais il faut bien prêter tout ça à Dieu pour dire qu'il parle. Mais il est assis Dieu, mais il n'y a pas de quoi s'asseoir. Hein. Cette manière figurée dont nous parlons, et nous imaginons, hein, nous imaginons alors un Dieu assis, un Dieu qui parle, etc. Or, c'est une réalité toute différente. Alors, quand un enfant me pose la question, je lui dis, ben, il parle à Abraham comme il parle, hein, comment est-ce qu'il parle? Et l'enfant sait comment Dieu lui parle. Donc il n'y a plus besoin de lui expliquer, il sait. Nous, il faut essayer de l'expliquer parce que nous ne savons plus. Nous avons oublié. Il fait comme il fait d'habitude pour nous atteindre. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, il ne faut pas aller très loin pour l'entendre. Il suffit d'entendre son plus profond, son plus intérieur, son plus vrai en nous. Comme tout à l'heure je vous disais, il faut regarder à l'œil nu, écouter à l'oreille nue, pour percevoir. Vous voyez, rien que dans cette première phrase, il y a toute une expérience, une longue expérience. Le Seigneur dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Pars. Drôle, hein? Pars. L'air. Je ne sais pas comment vous le traduisez, dans vos textes, quitte, out, quitte, c'est pas mauvais non plus. Pas, va, quitte, pas. Le mot lui-même ne dit rien d'autre que marche, marche ou pas. Mais en hébreu, ça se dit d'une drôle de manière, ça se dit lech, le cha, ce qui se traduit souvent par va-t'en, te, hein, le te, va-t'en, va-t'en. Or, en hébreu, ça veut dire « lech », c'est « va ». Et « lecha » veut dire « pour toi, vers toi ».« Lech lecha », pars de toi-même. Hein, c'est la première chose à faire. Il faut d'abord se quitter. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, se quitter, c'est pas évident, parce qu'il faut quitter ses images, il faut quitter ses manières de faire, il faut quitter tout ce à quoi nous sommes généralement attachés, accrochés. Et c'est quand nous partons que nous voyons à quoi nous sommes accrochés. C'est quand on déménage qu'on voit tout ce qu'on a, me disent les gens. Et j'ai souvent leur dire, et tout ce qu'on lâche. Ah, vous savez, remettre tout ça, tout ce qui est dans votre maison, dans un appartement, c'est plus possible. Donc lâchez. Lâchez. Et en s'allégeant, on devient soi-même. Drôle, hein. En lâchant du lest, on devient soi-même. Comme dans un ballon, quand vous lâchez du lest, vous montez. Lâchez le lest. Hein, beaucoup. Il y a tout le lest que nous connaissons, puis il y a tout celui encore beaucoup plus grand que nous ne connaissons pas. Alors, pas. Mais l'autre, l'ech, le cha. En hébreu, quand je dis l'ech, l'ech, le cha, ce sont les deux mêmes lettres, l'ech, le cha. Donc il fait aussi tout le temps dans le bien-aimé, à la bien-aimée dans le cantique des cantiques, le kilach. Comme il s'adresse à une femme, il ne dit plus l'ech, mais il dit le kilach. Va-t'en vers toi. Pour aller vers soi, c'est-à-dire pour se découvrir, il faut quitter tout ce à quoi on tient et tout ce qu'on pense être soi-même. L'ech, le cha. C'est déjà dit dans cette première partie. Va pour toi, va vers toi, pars, quitte. Tout ça, c'est bon. Mais il y a une grande densité dans « quitte ». Qu'est-ce qu'il faut quitter? Nous commencerions par, dans l'autre sens. On commence par, hein, les enfants font ça, hein, quand ils veulent se découvrir, ils quittent le milieu familial, hein, pour aller prendre un appartement ou un cote. Et nous dirions « la maison de ton père ». Eh bien là,
c'est l'inverse. Quitte d'abord ton pays. Ton pays, c'est beaucoup plus que la maison de mon père. C'est sa langue, c'est son environnement, c'est la terre sur laquelle on est né, c'est toutes ces attaches que nous avons avec notre existence, notre enfance, mais pas seulement notre enfance, c'est vraiment avec ce à quoi nous, là où nous habitons, tout ce dont nous avons besoin. Hein, la culture, la langue, la manière de penser, de vivre, l'air. Enfin, quitte, l'air, mais à ce cas, mais ici c'est le de, le quitter hors de, mais à ce cas, de ton pays, sort de ton pays. Mimolatra, de ta parenté, de tout ce qui a trait avec ta naissance, tout ce qui tourne autour de tes origines. Quitte tes origines, prends distance par rapport à tout cela. Pour te trouver, pour trouver ton unicité, il faut prendre distance par rapport à tout ce qui t'influence, qui t'empêche d'être toi en quelque sorte, tout en t'ayant porté jusque-là. C'est à la fois ce qui nous a porté qui nous empêche d'exister. Il faut bien se rendre compte de ça. Hein? Nous sommes à la fois portés par tout notre environnement, toute notre famille, tout cela, et en même temps, elle nous met ses brides, elle nous tient en laisse, en quelque sorte. Et pour se trouver, il faut lâcher tout ça, pour découvrir le plus profond de son être, qui est précisément cette image de Dieu. Mais à ce sera de ton pays, de ta parenté, donc de ce qui fait le lieu de ta naissance, pas seulement le lieu, mais les liens de ta naissance, de tes origines. Et de la maison de ton père, ça c'est ce qui te protège. Ça ce sont vraiment les sécurités. Mais betavira, on a toujours fait comme ça. C'est ces lois, ces coutumes, cette vie que nous avons vécue, qui nous a porté, ce pédagogue, comme le dirait saint Paul, hein, la loi était pédagogue pour le Christ. Eh bien, laisse tomber ça. C'est une déchirure de tout l'être, hein, une rupture totale de l'être. Mais à ce pas, mais voilà, ce pas, on est fait avec ça. Mais ça, c'est hors de, mais il y a un vers. Il faut quitter, mais pour aller vers. Hein, vers toi, évidemment, c'est déjà mis ici, pas. Je vais écrire en tout petit, vers toi. Et où est-ce que tu es, toi, le Lecha, hein, où est-ce que tu es pas, vers le pays que je te ferai voir. Le pays que je te ferai voir. C'est où? C'est le pays que je te ferai voir. Et vous aurez remarqué, je te. Dieu parle en toi. Ton père, lui, il est personne avec une personne, donc il peut dire je et tu. Je, toi, et le pays que je te ferai voir. C'est bien mis ensemble en français. Je te ferai voir. Le où n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est je te. C'est le lien. C'est déjà l'alliance. C'est déjà le lien profond entre je et toi. Ce qui est suffisant, c'est le je te. Moi, toi. Ça, c'est important. Le lieu, ben, c'est ici, c'est maintenant. Mais vous voyez, c'est lâcher tout. Mais simplement en raison d'une confiance que l'on fait. Le pas, c'est un ordre. Quand Dieu commence par donner un ordre. Un ordre de marche. Dieu commence toujours comme cela, comme nous d'ailleurs. Quand nous abordons quelqu'un, nous leur donnons toujours un ordre. Nous sommes là, tiens. Et donc il faut compter avec nous. Être là, c'est être là. C'est-à-dire imposer à l'autre une existence, un être. Donc c'est être reconnu ou méconnu, être accepté ou refusé, l'un et l'autre. On n'est jamais accepté totalement, jamais refusé totalement, toujours. Et on est en situation, comme je vous le disais ce matin, d'altérité. On est l'un avec l'autre, l'un devant l'autre. Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je te ferai voir, que je t'indiquerai, c'est pas mauvais, mais c'est je te ferai voir. Donc tu vas le découvrir petit à petit, avec moi. Donc ça c'est l'ordre. Ensuite, cet ordre est assorti de promesses. Je, ça commence toujours par je ferai de toi un grand peuple, ou plutôt une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Donc ici, c'est le projet de Dieu. C'est donc la promesse, ou les promesses, c'est au pluriel, ça, celle-ci, la promesse. Donc quand Dieu donne un ordre, il l'a sorti d'une promesse. Il y a un avenir, il y a un projet dans l'ordre de Dieu. Et donc, ainsi, littéralement, en hébreu, il y a un ainsi. Si tu pars ainsi, je vais le mettre quand même, parce que c'est là, ainsi. Je ferai de toi, je ferai de toi, vous voyez, ça revient. Je ferai de toi, donc il y a un lien, il y a une relation qui s'établit. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, ça continue. Je te bénirai. Et il faut faire attention à tous les mots, hein. Je te bénirai, je ferai grand ton nom, je ferai grand ton nom, c'est ta personne, ta réalité profonde, ce que tu es. Bien, moi je te ferai grand. Je te bénirai, je vous ai dit que bénir avait quelque chose à voir avec la vie, la bénédiction, est généralement don de vie. Je ferai de toi une grande nation. N'oubliez pas qu'on a dit que Sarah était stérile. Hein? Sarah était stérile. Elle n'avait pas d'enfant, ça a été dit. Donc on a déjà lu ça. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, c'est-à-dire je te donnerai la vie. Je ferai grand ton nom. Je te magnifierai. Le ton qui revient pour lui aussi. Je ferai grand ton nom. Oui, ici, ma traduction est plus ou moins juste. Qui servira de bénédiction. Ton nom servira de bénédiction. Oui, l'hébreu dit afin que. Donc il y a un but ici. Afin que tu sois bénédiction. Remarquez que je bénirai afin que tu sois bénédiction. Donc il y a la bénédiction qui passe. Je te bénirai, c'est-à-dire je te donnerai vie. Je ferai grand ton nom, donc tu auras une importance capitale, le père des croyants, afin que tu. Vous voyez que le je et le tu. La relation est constructive. Elle va construire la vie. Afin que tu sois bénédiction. Il vient de parler d'une descendance. Ici, tout ceci, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Il s'agit d'une descendance, et une bénédiction. Ça fait partie donc des promesses. Je bénirai ceux qui te béniront. Ah, continue. Les promesses ne sont pas terminées. Mais il faut bien que je passe à une autre page. Je bénis. C'est toujours le je qui bénit. Ceux qui te béniront. Je donnerai la vie à ceux qui te donneront la vie. De nouveau, le bénir, qui revient deux fois. Alors, déjà quatre fois que le mot bénir revient sur quelques versets. Donc, ceux qui te béniront, je bénirai. Mais, celui qui te bafoue, traduisons comme ça, qui te bafoue, je le maudirai. Tiens. Celui. Là, il était ce, et ici, il y a celui. C'est pas pour rien, hein. La bénédiction est large, les temples, elle va très loin. La malédiction, elle est beaucoup plus restreinte. Celui qui. Si d'aventure, il y a quelqu'un qui. Je donne la vie, mais on peut restreindre la vie. Et celui qui te maudit, puisque tu es bénédiction, puisque tu es le signe de ma présence, de ma présence qui est vie dans le monde, bien celui qui te maudit, qui ne te reconnaît pas, mais il met un frein à cette vie. Car quand Dieu maudit, ça veut dire que Dieu signale que l'homme met la mort à la place de la vie. C'est ça, maudire. Dire qu'il y a un mal. Bénir, c'est dire qu'il y a un bien. Et dire qu'il y a un bien, c'est le faire, c'est le réaliser, c'est la vie. Dire qu'il y a un mal, c'est signaler à l'homme qu'il ne le verrait pas, éventuellement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un ver dans le fruit. Il faut le signaler. C'est ça, maudire. Dire qu'il y a un mal. Dire le mal. Malédicere. C'est pas dire du mal, c'est dire que le mal est là. Et puis, il y a une clause, afin que toutes les familles de la terre, de nouveau, afin que toutes les familles, le terme est aussi important, famille dit une cellule, famille de la terre, afin que toutes les familles de la terre. Alors, j'ai ici, par toi se béniront. C'est curieux, hein, ici. Je bénirai ceux qui te béniront, dans ma traduction de la Bible de Jérusalem. Je bénirai ceux qui te béniront. Et puis, je réprouverai ceux qui te maudiront. Mais il n'y a pas de pluriel. Je ne vois pas pourquoi il en met un. C'est celui qui, éventuellement. Alors, ça pourrait se passer comme ça. Généralement, c'est la bénédiction. Mais de temps en temps, il y a des freins à la bénédiction. Donc, signalons-le. Mais ils sont toujours singuliers. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. Il dit nation alors que c'est famille. Je ne suis pas crotte. Donc, afin que toutes les familles de la terre puissent trouver bénédiction en toi. Voilà. Puissent trouver bénédiction en toi. Voilà le toit qui revient. Je bénirai, je le maudirai, afin que toutes les familles de la terre puissent trouver leur bénédiction. Et voilà de nouveau la bénédiction qui vient. Donc Dieu qui bénit délègue en quelque sorte sa bénédiction, c'est-à-dire sa capacité de donner vie à Abraham. Donc la capacité de donner la vie, de transmettre la vie, vient finalement de Dieu. Et donc nous avons jusqu'ici, si nous voulons compter ce qu'il y a dans notre texte, donc ça c'est l'ordre, Je ferai de toi une grande nation. Donc il y a une initiative qui est prise par Dieu. Je te bénirai. Je ferai grand ton nom, afin que tu sois bénédiction. Vous voyez, il y a la négation qui commence. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te bafoue, je le maudirai. Six fois le je. Et dans le verset 7, une septième fois, qui montre que c'est le chemin de la, l'histoire humaine, qui est un chemin de, d'initiative de Dieu avec réponse de l'homme, je te. C'est déjà un chemin d'alliance. Afin que toutes les familles de la terre, là il y va fort, hein, toutes les familles de la terre, ça c'est l'universalisme le plus grand. Afin que toutes les familles de la terre puissent trouver bénédiction en toi. Voilà comment on pourrait traduire. Et vous voyez que c'est tout un programme. Et que dans ce programme, il y a ce que nous avons peut-être. Donc les promesses, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te donnerai la vie, je ferai grand ton nom, afin que tu... Tu vas prendre en charge cela. Si je te donne quelque chose, c'est vraiment une mission. Quand Dieu choisit, ah voilà un terme, hein, il n'est pas encore prononcé, mais il est présent, le choix, l'élection, comme nous disons. L'élection, c'est un problème terrible, terrible, l'élection. Car choisir pour nous, hein, je choisis l'un et je laisse tomber... J'exclus les autres. Ça, c'est le choix humain. Quand Dieu choisit, il donne toujours une responsabilité, une mission. Le choix est toujours assorti d'un devoir. Dieu ne choisit pas pour privilégier quelqu'un. Dieu choisit pour privilégier les autres. Car justement, il va devoir être bénédiction pour les autres, pour toutes les familles de la terre. Et ce qui est vrai pour Abraham est vrai aussi pour nous. Nous avons une responsabilité à porter pour toutes les familles de la terre. On appelle ça la communion des saints. Comme disait mon professeur de philosophie, celui qui crache un amur dans la Meuse fait monter la marée à San Francisco. Nous ne savons pas quel est l'avenir des gestes ou des attitudes, des gestes que nous faisons, des attitudes que nous prenons, des paroles que nous disons, des pensées que nous formulons intérieurement.
Émile, tu notes ça,
hein? Oui.
Ça va retomber.
Bon, ne fait pas, il a déjà sa feuille claire. Il y a de quoi d'ailleurs. Le texte est assez riche. Toutes les familles de la terre. C'est une universalité dans une personne qui est prise dans son unicité. Abraham est une personne qui est sortie comme cela de l'ensemble, mais pour être remise dans l'ensemble et pour l'ensemble. Donc le choix est toujours une responsabilité. Voilà donc le début. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je ferai grand ton nom, je bénirai celui, ceux qui te béniront, mais celui qui te maudira ou celui qui te bafouera, je le maudirai. Afin, tout ce chemin, même cette malédiction prononcée contre celui qui ne reconnaît pas le signe de ta présence, tout cela doit être traversé par toutes les familles de la terre trouveront bénédiction en toi. Tout ce chemin est un chemin de bénédiction qui reprend en charge la malédiction éventuelle qu'il y a prononcée d'un côté ou de l'autre. Faut bien, parce que la réalité est telle. Donc c'est un chemin de vie. Vous voyez, on avait parlé des quatre problèmes dans les chapitres 1 à 11, problème homme-femme, problème fraternel,
problème de la société et problème des langues et des pays. Bien voilà que tout va être repris en sous-ordre par le choix de Dieu. Qu'est-ce qui motive ce choix? Rien. Le choix de Noé, il était encore motivé. Hein? Lui, il ne faisait pas comme tout le monde. Il était encore juste. Tandis qu'Abraham n'a rien fait. Donc c'est la gratuité pure. Nous, nous lisons cela éventuellement comme l'arbitraire. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Parce que lui, tient. Et si c'est lui, c'est donc toi. Là, c'est justement l'exemple à plus. Il prend un exemple, il en prend un, pour que, ayant pris un, il sache, chacun puisse savoir qu'il est un. Il ne choisit pas tout le monde, on choisit un. C'est pas la même chose. Et donc, tout le monde n'est pas choisi, tout le monde n'est pas sauvé. Non, tout le monde, ça, c'est un grand magma, ça n'a pas de nom. Mais Abraham, et l'Abraham que je suis, est choisi. Mais chaque Abraham est choisi tel qu'il est dans son unicité. Oui, Michel ?
Cette façon, on va le penser, ce n'est pas que personne qui est dans la multitude de la parole de la prophétie.
Évidemment ! La multitude, c'est les nombreux. On ne dit pas tous. On dit les nombreux. Et c'est important qu'on ne dise pas tous. Le tous est anonyme. Mais la multitude, ce sont des personnes. Et donc, c'est tout un chacun. La même chose. Alors, vous voyez, c'est un exemple, c'est le père des croyants. Donc, il dit ce que chacun des croyants peut être, car chacun est un commencement. Mais si vous dites, tout le monde est choisi par Dieu pour... Vous ne dites rien du tout.